Et bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Ce matin, on parlait également d'anorexie mentale. On fait le point sur ce trouble alimentaire d'origine psychiatrique. Un trouble qui peut très souvent s'avérer assez dangereux pour la personne qui en souffre. Pour en parler, pour y voir plus clair et pour comprendre ce trouble donc, on a le plaisir de recevoir comme tous les jeudis matins Dr Hotman Lorabi. Bonjour docteur.
Bonjour Mariam, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Média et ravi d'être avec vous.
Merci beaucoup d'être avec nous comme tous les jeudis matin, c'est devenu notre rendez-vous hebdomadaire donc. Vous êtes spécialiste en psychiatrie et secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. Alors d'abord, comment peut-on définir pour commencer l'anorexie mentale ?
L'anorexie mentale, vous l'avez dit, c'est un trouble psychiatrique. Plus précisément, c'est un trouble des conduites alimentaires, enfin du comportement alimentaire. C'est-à-dire que on va observer chez la personne des modalités d'alimentation qui sont très largement différentes hein, par rapport à ce qu'on observe chez tout le monde. Et plus précisément, quand on va parler d'anorexie mentale, comme son nom l'indique, c'est anorexie veut dire absence d'appétit. Absence d'appétit, alors pas seulement, parce que il y a beaucoup de maladies psychiatriques où on va avoir de manière passagère une baisse de l'appétit, hein, comme dans la dépression, etc. Mais là, on parle d'un trouble beaucoup plus spécifique où il y aura non seulement une absence d'appétit, une restriction volontaire de l'alimentation, un décompte extrêmement drastique des calories ingérées. Ça, c'est en termes d'apport alimentaire. Mais surtout, il y a deux autres dimensions qui sont très importantes. C'est d'abord une mauvaise perception du corps. C'est-à-dire que la personne qui souffre de ce trouble va toujours se trouver grosse, même si elle est authentiquement maigre. Et quand je dis maigre, c'est d'un point de vue médical. C'est-à-dire même quand on est dans la cachexie ou dans la maigreur extrêmement pathologique, la personne va continuer à se voir trop grosse. Hein, ça, c'est probablement aussi le point le plus important. Et à côté de cette ce qu'on appelle une dysmorphesthésie, hein, c'est-à-dire le fait de ne pas apprécier notre image corporelle à sa juste valeur, on va avoir aussi d'autres comportements erratiques qui vont être le surinvestissement sportif. Donc ce sont des personnes qu'on va trouver dans la pratique de sport de manière quelquefois pluricotidienne, hein, c'est-à-dire avec deux séances de sport par jour. On va trouver aussi un hyperinvestissement scolaire. Oui. Je dis scolaire parce que l'anorexie mentale, en fait, dans l'immense majorité des cas, elle va concerner des adolescentes, hein, principalement entre l'âge de 12 et 17 ans. Et surtout des filles, ça peut arriver chez les garçons, mais c'est beaucoup plus rare, c'est 5 à 6 fois plus rare, c'est vraiment quelque chose d'anecdotique, et souvent chez le garçon, cela peut être un mode d'entrée vers d'autres maladies qui vont se déclarer un peu plus tard, et comme je le disais, donc c'est les adolescentes en période de puberté, donc là aussi il y a la notion de changement du corps, parce qu'il y a les attributs physiques qui se développent pendant cette période-là. Et ça concerne à peu près 1%, 1 à 2% des adolescentes. Cette anorexie mentale, elle va donc représenter un vrai risque parce que il y a un risque de santé physique déjà, parce qu'on est en train de parler d'une privation extrêmement profonde en termes d'alimentation, avec tout ce que ça va avoir comme répercussion au niveau métabolique, au niveau aussi de la croissance, au niveau aussi des fonctions intellectuelles et des fonctions cognitives, et aussi sur le plan je dirais psychologique, très souvent quand il y a une souffrance qui est en relation avec le délitement des relations sociales, hein, très souvent quand on est dans cette situation, dans cette pathologie donc d'anorexie mentale, on est le plus souvent isolé, solitaire, y compris dans le milieu familial. Donc il y a plusieurs degrés, de souffrance, enfin il y a plusieurs niveaux de souffrance qui peuvent intervenir du fait de cette maladie-là.
Alors on se pose tous la question, quels peuvent en être les facteurs de risque, docteur Lorabi ?
Alors, c'est vraiment multifactoriel, comme toutes les maladies psychiatriques. On va trouver des facteurs un petit peu, je dirais, biologiques, où la génétique va intervenir, parce que assez souvent, on remarque que les jeunes filles qui souffrent d'anorexie mentale ont dans leur entourage familial quelqu'un qui en a souffert. Sur le plan biologique aussi, on parle de peut-être d'anomalies au niveau des hormones qui régulent en fait l'appétit et l'alimentation. Mais ça n'est pas que ça. Ça, c'est juste un facteur parmi d'autres. Les autres facteurs sont principalement psychologiques. C'est-à-dire qu'on va retrouver, entre guillemets, une typologie de jeunes femmes qui sont sujettes à ce genre de troubles. Ce sont des jeunes femmes qui sont le plus souvent, qui ont beaucoup, enfin, un vrai problème d'estime de soi, qui ont des comportements axés sur le perfectionnisme, qui sont assez rigides dans leur fonctionnement, qui ont du mal à s'adapter quand il y a des choses qui évoluent. Même assez régulièrement, on observe que ce sont des jeunes femmes qui, à l'origine, avaient déjà pas beaucoup d'interactions sociales, donc pas beaucoup d'amis proches, pas beaucoup de... Enfin, voilà, qui sont pas intégrées dans des cercles d'amis comme on pourrait imaginer, des adolescentes, je dirais, en bonne santé. Et il y a aussi d'autres facteurs qui sont beaucoup plus inhérents à des événements de vie, parce que on observe à part la puberté, donc qui déclenche, qui peut être réellement un déclencheur, et ben il y a d'autres événements de vie traumatisants. Ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être un échec scolaire, ça peut être plusieurs petites choses comme ça, mais qui vont avoir une dimension de traumatisme. Et c'est l'ensemble de tous ces facteurs qui va contribuer à l'apparition de ce genre de maladie. Et juste petit point particulier, il y a aussi une catégorie, j'ai oublié, mais en termes de facteurs de risque, il y a des catégories, oui, je dirais sociales, entre guillemets, mais pas socio-économiques, mais vraiment sociales, c'est-à-dire une fille qui va être une grande sportive ou qui va être une danseuse qui fait de la danse classique, ce genre de choses. Aujourd'hui, on sait qu'il y a certains milieux, comme dans le mannequinat, et ça, ce n'est pas ce n'est pas, je dirais, juste un lieu commun. Il y a plusieurs, il y a plusieurs contextes professionnels, entre guillemets, qui vont favoriser aussi la survenue de ce genre de maladie, probablement à travers les injonctions qu'on peut recevoir quand on évolue justement dans ce genre de milieu.
Très bien. Alors, est-ce que ça se traite de la même manière chez tout le monde, donc, docteur Lorabi?
Oui, le traitement psychiatrique est, je dirais, d'abord basé, quand on parle d'anorexie mentale, la composante anorexie mentale, c'est vraiment basé sur la psychothérapie. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anorexie mentale, dans la moitié des cas, n'est pas pure, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est associée à d'autres comorbidités psychiatriques. Ça peut être un trouble dépressif, ça peut être un trouble anxieux, ce genre de choses. Et donc, bien sûr, quand il y a une comorbidité, il faut aussi une prise en charge en parallèle, donc des autres maladies qui sont là, chez la personne et dont souffre la personne et qui quelquefois peuvent être occultées totalement par le trouble le plus grave, à savoir l'anorexie mentale. Donc comme je vous disais, la base du traitement, c'est vraiment la psychothérapie. La psychothérapie, ça peut se pratiquer en ambulatoire, c'est-à-dire en consultation externe, des visites régulières chez le psychiatre ou chez le psychothérapeute, mais il est vrai que idéalement, il faudrait des structures qui sont spécialisées dans le traitement de l'anorexie mentale, parce que c'est un vrai challenge, c'est une vraie surveillance, je dirais, au quotidien. C'est beaucoup de... quand on parle, par exemple, de l'alimentation d'une jeune femme, d'une jeune fille qui souffre de ce genre de choses, quand bien même il y aurait beaucoup de vigilance de la part des parents ou de la part de l'entourage, il y a toujours des moyens de tromper, entre guillemets, l'entourage, de cacher de la nourriture qu'on est censé avoir mangé, de développer des stratégies pour faire semblant justement qu'on est en train de manger, développer des stratégies pour leurrer le pèse-personne au moment de la pesée, quand on va justement rendre visite, quand on va voir le médecin. Donc c'est un vrai challenge et assez souvent, et surtout quand il y a une maigreur pathologique avec des troubles hydroélectrolytiques, hein, notamment quand il y a un effondrement du potassium et du phosphore, ça ce sont des marqueurs biologiques de la gravité de la maigreur, on est obligé de recourir à l'hospitalisation parce qu'à ce moment-là, le danger est vraiment, le pronostic vital est vraiment engagé, hein, quand on est dans des maigreurs pathologiques avec des anomalies hydroélectrolytiques, parce que ça peut donner des arrêts cardiaques, ça peut donner beaucoup de choses, et il faut reprendre l'alimentation d'une manière extrêmement progressive. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est traité à temps, c'est-à-dire pendant l'adolescence, justement, assez rapidement après l'apparition de la maladie, eh ben, on a d'assez bons résultats où on va avoir peut-être une proportion de l'ordre de 2/3 des personnes qui arrivent à en guérir totalement. Hein, alors, le petit point noir qu'il faut quand même garder en tête, c'est que cette maladie, l'anorexie mentale, s'accompagne, comme je le disais, ça met en danger le pronostic vital, mais ça s'accompagne d'une mortalité assez importante, malheureusement, hein, parce que justement du fait de la privation de nourriture et de tous les troubles qui vont apparaître dans la physiologie du corps, on peut avoir des événements malheureux comme des décès, et dans les études, on retrouve un risque de mortalité qui est de l'ordre de 20%, hein, ce qui est quand même immense, hein, et ça souligne l'impérative nécessité de prendre en charge ces maladies dès lors qu'on doute, hein, qu'il y a ce genre de diagnostic. Bien sûr, dès que le diagnostic est posé, il faut pas du tout hésiter ni tergiverser.
D'accord. Alors, comment cet entourage également peut-il aider? C'est une question qui revient très souvent, et je pense notamment à ces parents qui sont face à cette situation avec leurs enfants, donc leurs adolescentes, vous le disiez. Comment ces parents peuvent aider une adolescente face à cette anorexie mentale?
Je vais vous dire, quand on parle de psychothérapie, de l'anorexie mentale, la règle, c'est que les parents participent à la prise en charge, qu'ils soient partie prenante, parce que il y a, juste à titre d'exemple, hein, il y a des contrats qu'on va passer en tant que psychiatre avec la personne qui souffre de l'anorexie mentale, des contrats de poids, ce genre de choses, et où les parents vont être nos partenaires principaux. D'accord. À l'extérieur. Hein. Mmh. Bien sûr, quand on parle d'une hospitalisation, même pendant l'hospitalisation, nous avons absolument besoin de la participation active des parents, qui soient totalement en accord avec ce qui est décidé par le médecin, parce que assez souvent, justement, les personnes qui souffrent d'anorexie mentale sont très 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 forte pour être un petit peu dans la manipulation, dans la séduction, le fait de rassurer faussement les parents et de pouvoir s'extirper à la prise en charge. Donc vraiment, mon conseil aux parents, et comment est-ce que les parents peuvent essayer, c'est vraiment de bâtir une relation de confiance déjà avec le thérapeute et d'être partie prenante du soin.
On terminera avec vos conseils à toutes ces personnes maintenant qui nous écoutent, qui se reconnaissent, qui ont envie de s'en sortir.
Alors, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui souffrent d'anorexie mentale, si elles se reconnaissent, parce que c'est pas toujours évident, comme je le disais, la guérison est possible. Et comme je le disais, enfin, mis à part les questions, je dirais, d'ordre physique ou même de l'esthétique du corps, parce que quand on est face à un sujet, à une personne qui est extrêmement maigre, on n'est pas devant quelque chose qui soit agréable à regarder, il y a encore plus une une crise qui s'installe au fond de la personne, une baisse de l'estime de soi, et c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux qui va impacter les études, qui va impacter les relations amicales, les relations sentimentales, qui va impacter, mais vraiment, toute la vie de la personne, et surtout quand on parle d'adolescents, on est en train de parler d'années critiques, parce que ce sont les années d'études, les années d'orientation, les années des premières expériences sociales, donc ce sont des années qui sont réellement irremplaçables. Et justement, le fait de passer à côté va probablement générer d'autres types de troubles hein, par la suite quand l'anorexie mentale n'est pas traitée. Tout en sachant que la plupart des adultes hein, qui souffrent, par exemple, d'hyperphagie boulimique sont étaient des adolescents qui avaient souffert d'anorexie mentale. Donc c'est important de savoir que ces troubles des conduites alimentaires sont chroniques et que, justement, le fait de se dire que ça va passer tout seul, eh ben c'est pas vraiment vrai, il faut essayer d'être pris en charge et il faut essayer d'adhérer à la prise en charge.
Docteur Atmane Lohrabi, vous êtes spécialiste en psychiatrie, vous êtes secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique. Vous étiez avec nous depuis Casablanca. Merci beaucoup d'avoir répondu
à
nos questions.
Merci pour l'invitation.
Et c'est un entretien réécoutable sur notre site median.com.